Jean Lhermier dans le nouveau théâtre de Carouge. Bonjour Jean Lhermier.
Bonjour.
Et nous allons parler de la fosse suivante qui a déjà été présentée au TKM en janvier. Il y a eu des difficultés au moment des répétitions parce qu'il y a eu bien sûr des cas Covid. Et maintenant, elle est au nouveau théâtre de Carouge. La fosse suivante, c'est Marivaux. Marivaux, vous êtes familier parce que le Marivaudage, vous aimez bien. Vous aviez déjà monté le jeu de l'amour et du hasard. La fosse suivante, qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette pièce de Marivaux ?
Alors, c'est effectivement pas le premier Marivaux que je monte. J'avais monté le jeu de l'amour et du hasard, la double inconstance. Aussi une petite pièce en un acte, Les Sincères, que j'avais fait à la Comédie Française. Mais par rapport aux deux grandes pièces précédentes que j'avais montées, qui sont issues de thématiques de la surprise de l'amour, la fosse suivante n'est pas du tout là-dedans. Et que ce qui m'intéressait, c'est de découvrir un autre aspect de l'écriture et de la recherche de Marivaux. Et je dois dire que je n'ai pas été déçu. D'une part parce que c'est sidérant de voir que cette pièce du 18e, comment elle fouette les gens, à la fois dans l'imaginaire, mais aussi dans la réflexion sur plein de thématiques qui nous touchent encore aujourd'hui. Alors peut-être parfois de façon différente, je suis d'accord, mais qui n'empêche, nous fait travailler. Et puis, là c'est la force de ces grands poètes-là, c'est que malgré l'âpreté des rapports, des situations, il arrive à nous faire rire de ça, de nos travers, de nos chemins, de comment les personnages bâtissent un stratagème et ensuite sont dépassés par le stratagème qu'ils ont mis justement en place. Et nous, on s'amuse de ça et qu'il y a cet effet de catharsis qui fait que ça nous fait du bien. Et que là, voilà, c'est vraiment à chaque fois un immense plaisir et une aventure que de retrouver et de compagnonner avec Marivaux, parce que la langue est complexe, hein, c'est plus celle d'aujourd'hui, mais que véritablement, par la grâce des comédiennes et des comédiens, et l'ensemble des artisans qui travaillent autour du spectacle, la scénographie, les costumes, on arrive à le donner à entendre. Et que ça a une autre force que juste quelque chose qui serait plat, de passe-moi le sel. Là, il y a cette langue qui est la nôtre, qui est le français, et qui fait que ça permet de décoller.
Je rebondis sur vos propos, Jean Lhermier, justement la langue. Là, en particulier dans la fosse suivante, le terme est très important, parce qu'il y a le dédit de l'amour, justement. Mmh. Puisque Lélio est engagé auprès de la comtesse qui lui a donné de l'argent, il découvre qu'il y a une jeune inconnue qui peut-être pourrait rentrer dans sa vie. Il y a l'importance du verbe.
Oui, alors dans la langue chez Marivaux, ça c'est fondamental, parce que c'est vrai que dans le 18e, il y a une façon de séduire qui passe par la langue, qui passe par les mots, qui passe par par l'esprit, en fait. Et souvent, les personnages se reconnaissent parce qu'ils ont des façons de penser qui les font se ressembler et donc s'apprécier. Alors bon, le monde ne tourne pas forcément autour de ces aimants-là, plus, qui iraient ensemble, mais le fait est que là, la question de l'esprit, donc du mot, elle est fondamentale. Et c'est vrai, c'est fondamental ce que vous dites sur le dédit, parce que c'est le nœud, c'est le cœur du problème. Lélio, qui est moi j'ai beaucoup pensé à ce photographe qui tournait autour de Madame Bettencourt, et ces gens qui ont des esprits brillants. Oui, il y a de ça en même temps, avec une intelligence, avec un pouvoir de séduction. Et puis voilà, il s'est associé d'une certaine façon avec cette comtesse qui a des moyens. Et il est doublement engagé auprès d'elle. D'une part parce qu'elle lui a donné des petits sous pour qu'il puisse s'acheter une propriété sur laquelle il avait des vues. Donc elle lui a prêté de l'argent. Et puis en plus, ils se sont fiancés. Et qu'ils ont créé un acte chez le notaire, un dédit, qui dit que si un des deux parties rompt l'engagement avant le mariage, alors il doit payer, disons, 100 000 euros. Et que lui, entre-temps, il y a un de ses copains à Paris qui lui a parlé de sa belle-sœur en disant « Elle est mimi, elle est toute jolie et elle est pleine aux as, elle est disponible, elle est libre et elle serait éventuellement d'accord de venir avec toi. » Et lui fait un calcul extrêmement pragmatique, prosaïque et terrible, parce qu'il n'y a aucun sentiment là-dedans, c'est de dire « Mon intérêt, il est où ? Il y en a une qui a 12 000 livres de rente, l'autre 6 000. » C'est simple, le calcul, il est fait. Par contre, je ne veux pas avoir à rembourser mon emprunt, à payer le dédit. Donc, il faut que je trouve un copain qui va séduire la comtesse, ce qui fait que c'est elle qui va renoncer au dédit de notre engagement pour les fiançailles, et ça va rembourser mon emprunt. Donc c'est un pur calcul économique, et il va trouver, à l'occasion d'une soirée, un jeune gars qu'il ne connaissait pas, un chevalier, et à qui il va demander de l'aider à faire ça. Et ce qu'il ne sait pas, évidemment, et là c'est le génie de Mario, c'est que le chevalier qui va aider à, faire à réaliser ce projet n'est autre que la jeune fille de Paris avec qui il devait, qu'on lui promet en fiançailles, et qui s'est déguisée en homme. Et là, c'est le début du génie du scénario de Marivaux.
Vous parlez justement du génie du scénario de Marivaux, du génie tout court de Marivaux. Le fait qu'il y ait une critique des mariages d'argent, des mariages de convenance, ce n'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau avec Marivaux, c'est le fait que ni les hommes ni les femmes ne sont dupes.
À la fois, ni les hommes ni les femmes, ni la classe sociale. C'est-à-dire que c'est beau dans la pièce de voir qu'on peut se dire que la classe des maîtres, de ceux qui ont les moyens en tout cas, s'articule autour de l'individualisme au même titre que les employés de la maison. Et là, on est face à une galerie de personnages comme Trivelin, comme Frontin, comme Arlequin, qui sont dans les mêmes prérogatives, dans les mêmes schémas, de dire, mais ce qui compte, c'est que moi, je monte dans l'échelle sociale, et s'il faut écraser les autres, je les écraserai. Donc c'est la part belle à l'individualisme, et je pense que c'est ça qui nous renvoie vraiment à une photo d'un état du monde que dépeint Marivaux, lui, à son époque, qui forcément entre en résonance avec la nôtre. Et puis, la question d'une certaine façon du genre, puisque le chevalier, qui donc cette jeune fille de Paris qui s'est déguisée en homme, tout d'abord pour essayer de comprendre qui est Lélio, en étant déguisée, voilà, elle va pouvoir voir exactement qui il est, parce qu'il ne va pas chercher à la séduire, et elle va découvrir véritablement qui elle est, pour aller plus loin dans le fait de dire je vais essayer que la comtesse renonce aussi à lui, comme ça il sera puni de tous les côtés, elle va devoir séduire la comtesse. Et que là, elle va découvrir quelque chose d'elle. Et que ça, c'est vertigineux de voir les moments où, de jeu au début, de devoir la séduire, de voir comment la comtesse résiste, pourquoi elle résiste, sur quoi ça s'articule. Et puis après, ça va plus loin, c'est-à-dire probablement un trouble. Après, la culpabilité de dire « mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Et en même temps, un désir irrépressible de s'entendre dire ces mots d'amour dans une situation qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais connue, qui est d'être un homme face à une femme, alors qu'elle-même est une femme. Donc là, il y a des champs d'ouverture, de pistes sur sur l'être humain, sur le trouble, sur le désir, qui sont bouleversants de modernité, pas tant d'actualité, je me fous de l'actualité, mais vraiment de modernité sur le fond, de comment il nous amène à essayer d'entendre et de connaître un petit peu mieux les êtres humains.
Alors justement, Jean Lhermitte, vous mentionnez la modernité. Pourtant, c'est une pièce qui a été montée la première fois en 1724, il me semble. Et donc, du coup, elle est en résonance avec notre société, dans la façon aussi de communiquer, d'un certain individualisme.
Ah ben, à fond, sur les thématiques, en tout cas, ou sur les mécaniques, des mécanismes des rapports humains, ça, on se dit que ça n'a pas tant changé que ça. Et que moi, ça ne m'accable pas. C'est pour ça que j'ai un certain goût pour ces textes-là ou les textes classiques, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui restent, ma foi, alors on peut pester la contre, mais qui traversent le temps, et que je trouve que de voir, je ne suis pas attristé ou je ne viens pas fataliste en disant mon Dieu, ça ne change pas. Je me dis mais non. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de l'être humain. Autant le savoir, autant le connaître, parce qu'à partir de ce moment-là, on peut essayer de faire bouger les choses à notre niveau, à notre échelle et dans le temps qui est le nôtre. Et de se dire qu'on s'inscrit dans quelque chose qui existait avant et qui n'est pas réglé, parce que peut-être ça ne se règle pas, mais qu'on peut au quotidien y être attentif. Moi, ça a plutôt tendance à me faire du bien et à me soulager, de disant que voilà, c'est pas qu'un truc qu'on connaît aujourd'hui, puis en se disant mais on est dépassé parce qu'on est face à l'inconnu et on sait pas comment ça sera géré. Ça fait partie aussi des êtres humains et que c'est un combat de tous les instants, de chaque personne, de se dire est-ce que c'est le profit qui doit primer, quel est le rapport. Là, il y a une déshumanisation des rapports qui est qui est concernant dans la manipulation, dans le machiavélisme. Et en même temps, encore une fois, c'est la beauté du théâtre, c'est que les gens rient. Les gens rient de ça. Et que je trouve ça, hein, c'est pas un rire qui serait juste moqueur ou de dire ah ben, ça n'est pas de mon époque ou au contraire. Et que ça nous aide à, je pense, à nous accepter peut-être tel qu'on peut être parfois, pas forcément tout le temps parce que ce sont des personnages de fiction, mais comme parfois on peut être, et éventuellement de bouger un peu et de changer les choses.
À force de côtoyer Marivaux, j'imagine que vous avez pu voir comment il observait sa société, ses contemporains. On sait qu'il fréquentait les salons littéraires où il y avait des femmes d'esprit qui animaient ces salons, qui avaient beaucoup de conversations. Est-ce que vous pensez qu'il était aussi un sociologue de son époque ?
Ouais, je crois. Alors, il y a deux choses importantes pour moi chez lui. C'est le moment où il arrête d'écrire pour la Comédie-Française. Parce qu'il avait l'impression que les acteurs, le type de jeu, la nature du jeu des interprètes du français ne correspondait pas tout à fait à son écriture. Et il s'est tourné vers les acteurs de la Comédie italienne, qui était en fait un théâtre à Paris où la troupe était importée d'Italie. Donc c'était des Italiens de tradition de la Comédie dell'arte, mais qui jouaient entre autres des textes en français. Et il s'est mis à écrire pour eux, entre autres parce qu'il adorait une des comédiennes qui s'appelait Sylvia. Voilà, bon. Et il y avait deux choses qu'il aimait beaucoup, c'est leur façon de jouer, qui était issue de la tradition de la commedia, donc des Lazzi, donc il avait l'impression qu'ils se parlaient vraiment, qu'ils jouaient vraiment ensemble, et que c'était pas juste dire le texte comme ça, comme ça, comme ça, et puis ensuite de ne pas être dans la relation. Donc il y avait déjà un désir chez lui, comme dramaturge, comme auteur, de chercher la relation entre les comédiens d'abord qui vont porter ces personnages. Et puis la deuxième chose qu'il adorait, c'est quand il allait les voir jouer, comme ils étaient de souche, de racine italienne, il avait l'impression qu'il ne comprenait pas toujours ce qu'ils disaient. Et ça, il adorait. Et ça, pour moi, ce n'est pas anecdotique, c'est que c'est un auteur qui traquait l'inconscient. Il y a des lapsus qu'on arrive à voir dans la pièce, et des personnages, comme je le disais, qui sont dépassés par leur projet. Donc on met en place un dispositif, puis au bout d'un moment, comme ça ne se fait pas tout seul, il y a des autres qui vont interagir, ben forcément ça nous déplace, ça nous modifie, et parfois ça nous submerge. Et que là, l'humilité à laquelle ça renvoie les personnages qui se font blackbouler à droite à gauche, ça c'est un très 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 fin observateur de... à la fois de la nature des sentiments amoureux et puis encore une fois des relations de classe, de pouvoir, d'argent. Dans quelques temps avant cette pièce-là, il y a eu deux événements importants. Il avait misé une partie de son argent dans, on va dire, dans les actions, enfin dans une banque. Et puis il y a eu une banqueroute. Il a perdu tout son argent. Ça, c'est un premier point qui me paraît important. Et puis le deuxième, c'est qu'il a perdu sa femme peu de temps avant. Et que j'ai l'impression que cette pièce-là, elle est teintée aussi de ces événements-là, à la fois sur le rapport à l'argent, et puis ce désert de sentiments, peut-être qu'il est en train ou qu'il est à même de traverser. Alors, je me garderais bien à faire une exégèse dramaturgique entre sa vie et puis son œuvre, mais c'est vrai que ce sont des gens qui puisent, comme Molière ou les grands auteurs comme ça, qui vont puiser dans leur vécu et dans l'observation du monde dans lequel ils sont pour le retranscrire sur les plateaux à travers des personnages. Et que ça, de le voir aujourd'hui et de voir qu'aujourd'hui on peut tenir une salle en haleine qui est captée, captivée. Par un texte, par des artistes, et qui éclate de rire d'un seul bloc pour une situation ou un jeu de mots, je me dis alors, ouais, c'est une sacrée leçon sur le temps et sur l'esprit de voir que bah, il continue à vivre, quoi, Mario.
Il y a une vivacité incroyable qui se transmet à travers les siècles. Et vous parliez de la Comédie dell'arte, Jean Lhermier. À part Arlequin, tout le monde est là dans cette pièce.
Ouais, Arlequin, lui, il est vraiment issu de la tradition, Trivelin aussi, donc ils font partie du monde des Zanni avec Frontin aussi. Et puis après, on a la comtesse, le chevalier, et puis le fameux personnage de Lélio. Mais c'est vrai que c'était joué par des acteurs qui, eux, étaient détenteurs des rôles. du rôle d'Arlequin, enfin voilà, on se passait ces rôles-là de pièce en pièce, et ils avaient des catalogues de Lazzi aussi à l'intérieur. Alors il y a eu des révolutions qui ont été faites, entre autres en Italie, au moment où Goldoni s'est battu contre Gozzi, Gozzi un peu le défenseur de la tradition, du patrimoine, du théâtre de la Commedia, et puis Goldoni en disant, en remettant en question ça, en disant non, bah, moi, je vais vraiment écrire les pièces, puis là, il faut qu'ils disent mes mots, et puis il faut que ça... Et que là, c'était amusant pour moi, qui défend une boutique ici, au Théâtre de Carouge, qui fait la part belle aux classiques et aux œuvres dites parfois du passé, même si moi, alors, franchement, je vis plutôt bien le passé, parce qu'il a tendance à m'éclairer pour l'avenir, et que là, ça commence par une discussion justement entre Frontin et Trivelin, sur les anciens et les modernes, et c'est magnifique de les entendre. Et que voilà, il y a tout un jeu à l'intérieur de la pièce où j'ai fait une petite variation autour de effectivement monter un texte aujourd'hui du 18e sans changer un seul mot, de le donner à entendre aujourd'hui, et puis de qu'il soit fulgurant et saisissant de modernité. C'est une belle façon de raconter à l'intérieur, de par les êtres humains, les êtres humains qui portent le texte que sont les artistes sur le plateau, de défendre à la fois les anciens et les modernes, c'est-à-dire les êtres humains tout court. C'est pas l'un contre l'autre.
Ah justement, Jean-Hermie, vous nous avez mis un petit peu en bouche, vous avez dit j'ai opté pour... Quelle est la mise en scène pour laquelle vous avez opté justement pour adapter cette fois suivante?
Alors, on a eu avec le scénographe Rudy Sabungi, qui est un immense nom de la scénographie en Europe, hein, au théâtre comme à l'opéra. Et avec Rudy, on a fait plein de maquettes différentes. Et on s'est arrêté sur un contenant de trois murs, une pièce, des murs blancs. Un peu comme l'idée, c'était de se dire les personnages sont comme des souris de laboratoire. Et on voit bien Marivaux qui place ses petits bonshommes dedans la cage et puis qui va jeter un petit truc, un petit ingrédient, que ça soit un mot, que ça soit une situation, qui va faire qu'on a les petits trucs qui vont se mettre à s'agiter et à bouger. Et nous, comme spectateurs, qui en savons plus que les personnages, on les observe. Et on devient un peu on assiste à ce laboratoire, à cette expérience. Et puis, une chose qui pour moi était importante depuis le début, que je ne cherchais pas à expliquer, mais c'était la présence de la neige. Je me disais, mais... Ouais, alors j'avais plein de références par rapport à ça, mais pour moi, il y avait quelque chose du cœur gelé. Et du froid, de la musique même, de l'air du froid. Et j'avais envie que ça soit présent. Parce que y a le blanc, suivant comment on l'éclaire, ça peut être extrêmement chaud, et puis clinquant, lumineux, et puis en même temps, si on passe dans les couleurs plus froides, avec des bleutés, il y a quelque chose qui peut être glaçant. Et là, la neige, en fait, est rentrée dans la maison. Et que la scénographie qui est assez simple parce qu'elle met en avant en fait quelques accessoires. Donc dans le premier tableau, on est dans une espèce de garage où il y a un personnage, Frontin, qui doit absolument partir très vite à Paris, donc qui répare sa mobylette. Donc ça, c'était un petit hommage aux petites fugues avec Michel Robin, le film de Hiersin, et voilà, celui qui veut quitter ce monde-là en disant « bon, moi je pars vite avec ma mobilette ». Et puis parce que je tenais à ce que les premières scènes, en tout cas les scènes de l'acte 1, ne se situent pas dans un endroit où on s'installe. Mais comme on n'arrête pas de parler de projets, un peu de cinéma, cinéma noir, policier, d'intrigue, c'était les discussions se font entre deux coins de porte, pour pas être entendu, pas être vu, tout ça. Et puis ensuite, on rentre dans un salon. Et puis après, l'espace s'éclate. Et puis, on a accès à une forêt. Donc ça se passe entre des intérieurs et des extérieurs. Et avec des costumes qui, on va dire, sont plutôt contemporains. Là, encore une fois, c'était... J'adore les costumes, tout ça, enfin, c'est vraiment des partenaires de jeu, hein, tant pour les artistes que pour le spectateur, parce qu'on donne des signes, des codes. Mais je tenais vraiment à ce que le public ne puisse pas s'abstraire de ce qui est raconté en disant « ouais, c'est un truc du 18e ». Et que là, je me suis attaché, enfin, avec Rudy, on s'est attaché. et Verena Gimel, qui l'a accompagné dans la réalisation des costumes, a donné vraiment des signes qui sont extrêmement clairs. Par exemple, typiquement, avec la comtesse, ça peut paraître comme des anecdotes, mais ça ne l'est pas, puisque tout est pensé vraiment dans un spectacle, mais tout dans le moindre détail, avec les artistes, enfin, dans l'échange avec les différents partenaires de l'équipe. Voilà, c'est les quelques bijoux que Brigitte Rosset a en tant que comtesse. Un élément qui était important pour moi, c'était la province, parce que Marivaux précise à chaque fois dans toutes ses pièces, l'action se situe à Paris, ou l'action se situe en province, ou hors de Paris. Et pour lui, c'est différent. Les personnages sont différents, ils ont une autre manière d'être, en fait, quand ils sont à la capitale ou quand ils ne sont pas. Et là, on est vraiment en province, et que je voyais une dame comme ça, qui est fortunée, que tout le monde regarde et observe dans la petite ville de province dans laquelle elle est, et qui tout d'un coup se balade pour aller faire ses courses ou avec un jeune belâtre, et les candidatons, et puis il y a le chevalier qui déboule là-dedans, donc il y a un deuxième homme, donc qu'est-ce que vont dire les gens, que va dire la boulangère, que vont raconter mes domestiques,
les
potins, et que ça fait partie des pressions qui vont faire résister la comtesse aux avances du chevalier, de par aussi son éducation, le modèle qu'elle a dans la tête, les schémas qu'on lui a transmis en disant « mais je ne peux pas céder en deux jours !» Qu'est-ce que vous voulez? Je dis pas que je suis insensible, je ne l'ai pas dit. Mais quand même, ça ne va pas se faire comme ça. Et puis vous, d'ailleurs, ça s'est fait en deux jours. Est-ce que je peux y croire? Et c'est toute cette façon qu'on a de résister. Et l'autre l'invite à l'aventure en disant « Mais partez, venez avec moi. Laissez tout ça tomber, on part, les deux, on s'aime. » Alors que le chevalier qui est en train de faire ça et qui est cette jeune fille de Paris, sait très bien qu'elle ne le fera pas. Et c'est peut-être aussi parce qu'elle sait ça qu'elle est dans une position d'actrice qui n'a rien à perdre et qui lui confère une liberté incroyable, et puis une position qui est d'observer l'attitude de la comtesse. Et que souvent, en travaillant sur le chevalier, cette femme déguisée en homme, je me disais, en fait, elle se voit dans le personnage de la comtesse. Et il y a plein de fois où elle piaffe en disant « Mais c'est pas vrai, vous avez de ces longueurs !» Et en fait, elle voit comment elle, en tant comme dans sa vie d'avant, avant d'être déguisée en homme, comment elle pouvait être. Et elle connaît très très bien ces mécanismes-là. Donc elle arrive à trouver les clés pour rentrer, et elle voit que ça résiste encore, et comment elle peut la pousser jusqu'au contact physique, jusqu'au désir d'un baiser, au désir d'aller plus loin, et encore une fois, de ce que ça produit, même physiquement, dans l'attirance, dans le désir. Et ça, c'est magnifique de voir dans le troisième acte, les va-et-vient et les allers-retours qu'elle fait, où à la fois, elle dit « mais je peux pas vous faire ça ». Et elle le dit, hein, l'autre ne comprend pas, mais elle dit « mais non, mais je peux pas, vous savez pas, faut pas se fier sur ce qui est naturel sur moi, hein, parce que ça, c'est pas une bonne idée, ça ». Et en même temps, de dire « je veux quand même que vous me disiez ces mots-là ». Parce que les autres, là, vous me dites « je t'aime », mais ça, c'est rien, parce que vous l'avez déjà dit. Vous l'avez dit à l'Hélio. Moi, vous m'en disiez des mots qui sont qu'à moi, qui ne seraient qu'à nous. Et elle voit l'autre qui plonge, qui tombe. Et jusqu'au moment où, bon, je vais pas raconter la fin, mais c'est la chute est vertigineuse, voilà.
On va pas raconter la fin, effectivement, mais vous nous parlez de Brigitte Rosset, vous pouvez parler des autres comédiens.
Oui, alors Brigitte est sublissime, hein. C'est une comédienne vraiment extraordinaire, j'ai eu la chance déjà de travailler avec elle. Mais c'est vraiment une interprète qui a une palette, c'est incroyable. Et de comment elle la nourrit, c'est-à-dire qu'elle a une force comique, hein. Là, c'est, ça sert à rien de lutter contre, mais en même temps, elle amène une humanité au personnage qui fait que le public est saisi à chaque fois en sortant, en disant « mais c'est horrible, la pauvre !» De comment elle aime manipuler. Et ça, elle le fait avec beaucoup de grâce, et évidemment, ça nécessite énormément d'intelligence d'interprète, d'arriver à rendre compte de ça, des failles, des fragilités, ou des limites même d'un personnage. Et puis... Il y a un de ses complices, Christian Scheidt, qui joue Trivelin, qui était quelqu'un que ça faisait très longtemps que j'avais envie de travailler avec lui. On avait fait l'école de théâtre ensemble quand on était jeunes, et on n'avait jamais eu l'occasion de travailler ensemble. Et là, c'est un plaisir, là aussi. C'est un acteur, mais extraordinaire. Ce sont vraiment des acteurs d'ici, hein, des acteurs romans, mais comme une palette et des compétences qui sont vraiment hors normes. Et puis, une jeune, alors il y a Baptiste Gélieron, il y a l'acteur il y a Pierre Dubais qui joue le personnage d'Arlequin, Jean-Pierre Gosse, sublime acteur, qui fait le personnage de Frontin, et puis un autre personnage que j'avais inventé au moment des répétitions, qui est un ange. en référence un peu aux ailes du désir de Wenders, et puis d'un contrepoint au monde auquel nous fait assister Marivaux, et en disant, mais voilà, il y a des personnages comme ça qui rôdent, donc il a des ailes d'ange, c'est un rocker, donc il vient avec, il fait de la musique, il dira quelques mots comme ça, et de... Voilà, qui posera sa main sur une épaule, et qui est juste un contrepoint, qui amène l'univers de la musique, et pour moi par extension l'univers de l'art, et en disant, l'art pour moi est non pas une échappatoire, mais une porte d'espoir, et une entrée qui est, et c'est terrible d'avoir à le redire aujourd'hui, qui fait partie des biens essentiels de l'humanité, c'est-à-dire qu'on n'est pas composé que d'un estomac, mais d'autres sens et d'autres facultés qui sont aussi vitales que l'estomac. Et lui, il apporte cette note là, et il le fait mais magnifiquement bien, Jean-Pierre. Et puis le personnage du chevalier a été créé en 2020, mais on a été arrêté tout de suite par le premier confinement, par Rebecca Balestra, qui vient d'accoucher d'une petite fille. Félicitations à elle. Et remplacé donc pour cette reprise par Lola Juice, une jeune comédienne. Qui est mais magnifique, magnifique aussi, très différente de Rebecca. Et ça, c'est beau dans la. Je me suis fait resurprendre par ça au moment des répétitions. Où en fait, on le sait, on se le dit, ça apparaît comme une lapalissade, mais en changeant l'interprète, la comédienne, pour jouer le personnage du chevalier, bien sûr, ça donne une autre couleur au chevalier. Mais surtout, ça modifie les autres. Les autres ne jouent pas de la même façon. Et ça, c'est magnifique de voir que le théâtre est construit par des êtres humains, et que c'est pas vrai que c'est juste un copier-coller où on va faire. Bien sûr que il y a plein de choses qui sont construites de la même façon, où je raconte pas une autre histoire, mais la personnalité ou la nature de la comédienne va faire que elle a d'autres, il y a d'autres champs de l'intérieur du personnage. Qu'elle va mettre plus en avant, plus en lumière, de par sa personnalité. Et puis les autres. Parce qu'elle elle a un aspect plus juvénile au plateau. Ce qui modifie un peu le rapport de la comtesse vis-à-vis de lui. C'est-à-dire que ça devient. Enfin, le rapport d'âge est plus présent, est plus prégnant comme ça dans la relation. Ce qui participe aussi à consolider et à renforcer les craintes ou les doutes de la comtesse vis-à-vis de ce jeune homme qui débarque tout plein de sa passion et de son enthousiasme, en disant, mais attendez, il y a quand même la vie, faut être un petit peu réaliste. Et elle tempère comme ça ses ardeurs, même si elle entend les douceurs qui lui susurrent à l'oreille. Et puis l'Hélio aussi, où tout d'un coup, ça devient un rapport plus de grand frère que d'égal à égal. Ça, c'était magnifique de découvrir. Alors après, avec le temps, avec la présentation, les choses se trouvent, s'équilibrent. Mais c'est magnifique de voir que, en fait, seul, on n'est rien. On se met à exister à partir du moment où on est avec les autres, parce que c'est les autres qui nous font exister. Ça, c'est des petits secrets qu'il est toujours bon d'avoir la naïveté de redécouvrir.
Alors, vous nous accueillez dans votre nouveau théâtre, Jean Hermier. Si je me trompe, corrigez-moi. Hein. Il me semble que vous avez pu répéter dans ces lieux. Pour la fois suivante.
Pour la fois suivante, j'ai répété entre fin novembre et début décembre dans la petite salle, justement avec la comédienne de la Juice. C'était pour lui permettre d'avoir une vision des scènes de l'intérieur. Donc on a fait venir les autres comédiens, pour pouvoir commencer à répéter. Mais c'était dans la petite salle, sans décor. Et j'ai adoré. Je trouvais que cette petite salle était géniale, très très agréable comme atmosphère de travail, enfin vraiment un lieu. Alors, j'étais le tout premier à répéter dedans, mais vraiment des ondes extrêmement positives. Et puis, là, on va le jouer dans la grande salle, donc avec le décor et tout le toutim. Mais c'est vrai que nos trois salles, la petite salle, mais également la salle de répétition et la grande salle, elles ont toutes un caractère.
Une âme.
Ouais, mais qui est singulière pour chacune. Et ça, j'avais pas du tout... J'avais pas calculé ça, à quel point, en fait, c'est pas qu'elles induisent quelque chose, elles sont évidemment excessivement confortables, tant pour le public que pour les artistes au plateau, enfin, les conditions de travail sont idéales, mais il y a une atmosphère particulière. Et là, il y a un garçon extrêmement talentueux qui s'appelle David Grazheimer, qui est le chef et directeur du Cinema Camerata. Et lui, il a fait des répétitions de son concert prestige avec Fanny Ardant dans notre salle de répétition, avec l'orchestre, hein, 40 musiciens et tout. Et il m'a dit, mais génial cette salle, c'est sublime pour la musique, tout, c'était parfait.
L'acoustique.
Et puis, l'acoustique. Et il vient de faire un concert vendredi passé dans la petite salle, pour le coup. Et où il a dit, non mais c'est extraordinaire, elle est extraordinaire. Donc c'est beau de voir que des gens qui sont sur le plateau amènent la confirmation de la réussite, mais simple, hein, qui n'est pas tapageuse, mais de la réussite, c'est-à-dire de la simplicité et de l'efficacité que ces lieux amènent pour privilégier la relation entre un public et des artistes.
Jean Lhermier, depuis 2 ans, la culture a été mise à mal, voire oubliée. Vous disiez l'importance de la culture, de toutes les formes culturelles pour nourrir l'humain. Est-ce que vous avez retrouvé un rythme de croisière ?
Alors là, c'était compliqué ces derniers temps, parce que le même si, je ne suis pas médecin, mais je crois qu'objectivement, on peut dire que Omicron, même si ça reste le Covid, entraînait moins de formes graves dans le développement de la maladie, ce qui est déjà une chance. Mais pour nous, dans les théâtres, dans les arts de la scène, c'était extrêmement compliqué parce qu'il était beaucoup plus contagieux. Et donc, dans nos différentes productions, dont la fosse suivante, on a eu des cas à gérer. Et ça, c'est compliqué parce que ça bloque une équipe, parce qu'il faut isoler la personne, mais bon, quand vous perdez une comédienne ou un comédien, c'est plus difficile de raconter l'histoire, forcément. Et puis surtout, il faut surveiller que ça ne contamine pas les autres. Et donc là, au moment des répétitions, des reprises, en début janvier, on était au TKM. Là, il y a eu un cas qui en a entraîné un autre. Heureusement, c'est la période où on est passé des 10 jours d'isolement à 5 jours, ce qui changeait énormément pour nous. Et j'ai repris le rôle de l'hélio au pied levé pour 2 représentations, texte en main. Voilà, le public a eu la gentillesse de faire très vite abstraction de ça, en fait, l'histoire se raconte. Mais je connaissais bien la partition pour avoir mis en scène le spectacle. Donc, et puis ce qui comptait, c'était que je puisse renvoyer la réplique au partenaire, mais ça nous a permis de ne pas perdre toute une semaine de représentation, mais juste, entre guillemets, 4. Et puis après, voilà, il y a eu un autre cas, mais qui est venu plus tard, qui nous a obligés dans la tournée à annuler la représentation de Winter Tour. Et puis là, a priori, ça s'est stabilisé. Et dans l'équipe de James Thierry aussi, là, sur le grand plateau, pareil, il y a eu des cas, il a fallu faire des rocades de gens qui allaient reprendre le rôle, faire venir quelqu'un
pour vite remplacer.
Ouais, là, en plus, sur des gros bastrings comme ça, c'est... Mais j'ai toujours tenu bon en disant, il est hors de question que quelqu'un qui soit contaminé soit au plateau. J'ai dit, non, c'est la règle. Alors peut-être qu'elle va être amenée à changer prochainement, peut-être. On croise les doigts. Mais je m'en suis tenu à ça, encore une fois, par en tant que responsable tout simplement d'institution et puis de protecteur à la fois d'une équipe et puis du public. Mais c'est vrai que c'était une jonglerie où tous les matins, je me levais en disant qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui. Et parfois, la journée était chamboulée, mais sans mentir, hein, de quasiment de minute en minute, où il fallait rebondir, prendre des décisions, dire okay, on fait ça, est-ce que ça va le faire, pas le faire, comment on appelle, quand vous décidez le jeudi ou le vendredi d'annuler 3 représentations et puis ensuite d'en annuler 2 autres. Typiquement, on a fait 100% de fréquentation sur le spectacle de James. C'est 8500 spectateurs. Donc c'est clair, quand on supprime 5 représentations, alors on a retrouvé 4, on a mis 4 supplémentaires pour essayer d'absorber quand même le public qui avait déjà en l'occurrence des billets. Mais pour la billetterie et pour l'équipe du théâtre, c'est une logistique monstrueuse parce qu'il faut contacter tous les gens pour... En tout cas, la plus grande majorité pour qu'ils ne se déplacent pas, qu'ils ne viennent pas le soir. Puis ensuite, les replacer sur d'autres dates où au moment où on annule, on n'a pas encore les autres dates. Donc ça, c'est des boulots qu'on a connus depuis 2020 qui sont éreintants et qui ne sont pas gratifiants. Donc pour les équipes, c'est des décisions. Je sais que ça a des incidences sur la fatigue, sur le stress.
Même la vie privée.
la vie privée, voilà, c'est un peu un tout. Mais il faut, moi, c'est ce que j'essayais de leur dire, mais n'oublions pas quand même la chance qu'on a, c'est que tous les soirs, on a 468 personnes qui se battent pour venir au théâtre et qui ont envie et qui sont heureuses et qui nous font l'honneur de vouloir venir voir aussi les autres spectacles. Donc, il faut pas oublier ça. Ça fait pas, même si voilà, on est exposé et que c'est cette situation est difficile, mais comme pour tout un chacun, on a quand même là la chance aux têtes de Carouge d'avoir à la fois la fidélité d'un public et puis de plein de gens qui nous rejoignent pour profiter des spectacles. Et ça doit rester quelque chose de moteur dont on ne peut jamais se blaser ou se lasser. Ça fait partie intégrante de notre mission et de la place que nous avons à jouer dans la pandémie aujourd'hui.
Merci beaucoup, Jean Lhermieux. Vous avez mis en appétit. Et puis, courage à vous, parce qu'on a mentionné les comédiens, mais il y a aussi tous ceux qui sont dans l'ombre.
Bah oui, oui. Moi, il y a à la fois l'équipe du théâtre de Carouge, hein, l'équipe permanente, et puis ceux qui nous rejoignent au plateau, à la fois pour les régies, donc de son, de lumière, mais aussi de régie plateau, parce qu'il y a pas mal de changements de décor ou de petites astuces, de petites bidouilles, il faudra voir, mais il y a quelques surprises à l'intérieur de la scénographie. Les habilleuses, donc c'est vrai que ça commence tôt le matin, ça termine tard le soir. Pour la représentation en fait, du soir, où on se dit, bah, finalement, il n'y a qu'à venir et il n'y a qu'à faire. Mais ce n'est pas vrai, ça nécessite beaucoup d'anticipation. Et puis, de compagnonnage, et je me réjouis avec le spectacle qui se jouera dans la petite salle en même temps, quasiment, mais qui jouera beaucoup plus longtemps que la fosse suivante, qui est le Presque Hamlet, la recréation du Presque Hamlet, de mise en scène par Dan Djemet avec Gilles Privat, qui est un bijou, c'est un cadeau, c'est un trésor ce spectacle, parce que les deux se sont retrouvés, ça fait des années que j'essaie de faire remonter ce spectacle, et là ils se sont trouvés, et c'est, il y a à la fois le plaisir de se retrouver, le spectacle avait été créé en 2000, c'est là qu'il était né, et ensuite voilà, il s'était arrêté. Et là, on sent le plaisir de la retrouvaille, et puis la patine des années, qui change sensiblement ou insensiblement les choses, qui nettoie, qui lave, qui simplifie, enfin vraiment comme un joyau, comme une pierre précieuse.
Qui se patine avec le temps.
Exactement. Et là, voilà, c'est un grand rendez-vous. J'espère que les gens se précipiteront pour voir Gilles, parce que c'est un de nos trésors nationaux et dont il faut prendre soin. Et la meilleure façon d'en prendre soin, c'est de venir le voir.
Merci Jean Lhermieux, tous ces deux spectacles dans des salles à l'acoustique exceptionnelle, comme vous l'avez mentionné.
Ouais, il y aura pour cette salle idéale et j'espère que nous aurons la possibilité d'ouvrir le bar et le restaurant et que les gens avant et après la représentation pourront en profiter, ce que nous n'avons pas pu faire jusqu'à présent, mais encore une fois on est à bout touchant d'y arriver.
On croise les doigts pour demain.
Ouais.
Merci Jean Lhermieux.
Merci à vous.